الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح اللهم شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخوة الإيمان، يا c'était un grand jour. Le jour de Ashura. Ce jour dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que son jeûne avait un grand mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car à travers ce jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala expiait les péchés du serviteur de l'année précédente. Mais à côté de cela, il y a autre chose qui généralement est souvent négligée par certaines personnes et qui a pourtant été mentionnée dans le Coran et dans la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de méditer sur l'origine de la législation de ce jeûne. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné ce jour et de tirer des leçons qu'il y a à tirer dans cela. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله. Certes, le jour de Ashura est un jour parmi les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que toutes les créatures appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala ou son prophète attribue une créature à Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il soit établi que toutes les créatures sont les créatures d'Allah, c'est pour montrer la place de cette créature et le mérite de cette créature. Donc quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna ashura yawmun min ayyamillah, c'est pour montrer la valeur de ce jour et la place de ce jour. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر عباده بأيامه. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de rappeler aux serviteurs les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'exhorter sa communauté, ses serviteurs, par le biais du rappel des grands jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où Allah, ce jour où Allah subhanahu wa ta'ala avait fait apparaître cet insigne. Et comme nous avons entendu dans le hadith, Ashura fait partie de ces grands jours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que nous devons de nous rappeler de ces jours? Pour tirer des leçons qu'il y a à tirer. قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. il y a en cela des signes d'éléphants attirés pour tout endurant reconnaissant. Pour tout endurant reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre des endurants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être du nombre des reconnaissants. Donc, il y a des leçons à tirer sur, lorsqu'on médite sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait eu à exposer ces jours-là. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a raconté l'histoire de Moussa alayhi salam. Parce que vous savez que si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a gêné le jour de Ashura, c'est parce que Moussa alayhi salam l'avait gêné en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé de l'histoire de Moussa et de beaucoup d'autres histoires dans le Coran, c'est bien pour qu'on tire des enseignements de ces histoires. قال الله تعالى لقد كان لكم في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Il y a certes dans les histoires des leçons à tirer pour les dieux d'intelligence. فيوم العاشوراء يوم عظيم نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه وهلك وأهلك فيه عدوه وأتباعه. Ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala avait sauvé Moussa alayhi salam ainsi que ses adeptes et les croyants, et il avait ahlaka, comment est-ce qu'on traduit ça, il avait fait périr son ennemi qui était Pharaon ainsi que ceux qui les ont suivis. يقول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله سبحانه وتعالى دان في رفل ce qui s'est passé ces jours. Lorsqu'il avait demandé à Moussa alayhi salam de sortir avec les enfants d'Israël, et il leur a permis de traverser la mer, et Pharaon les a suivis. Faen. Et Allah subhanahu wa ta'ala أغرقهم لزنوعي. Dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il a été établi qu'ils allaient se noyer, y compris Pharaon, قال, il a dit, آمنت, j'ai cru, أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. Il a dit, en ce moment, je crois qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part celui envers qui les enfants d'Israël ont cru, pour anamin al-muslimin, et j'ai fait partie des soumis. هذا آخر ما نطق به فرعون. Ça c'est la dernière parole prononcée par Pharaon. Et parmi les leçons que nous tirons ici, c'est que la yunji al-abd bayna yadi Allah illa at-tawhid. Rien ne permet au serviteur de réussir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est la tawhid, l'attestation de la foi, l'attestation de l'unicité, qui est le fait d'accepter qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah. Même les pires créatures l'ont su à la dernière minute. Et c'est pour ça que At-Tawba la tanfa illa al-ghara. Lorsqu'on agonise, la repentance n'a plus d'utilité et n'est plus valable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on agonise, on est face à la réalité. Et on comprend la vérité. Tout devient clair. Ce à quoi on ne croyait pas devient une réalité. Parce que lorsqu'on agonise, c'est quand les anges descendent qu'on agonise. Quand on voit les anges, on croit tout ce qui a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala. On croit tout ce qui a été cité dans le Coran. Mais en ce moment, pourquoi est-ce que cette croyance n'est plus valable? Parce que Al-Ghayb asbaha lahu shahada. Parce que ce qui relevait de l'invisible est devenu pour cette dernière du visible. Et à ce moment, la croyance n'est plus valable. Donc on ne peut pas être croyant si on ne croit pas à l'invisible qui a été cité dans la révélation. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم هؤلاء المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله جي ألف لام ميم سليم est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Et ça, c'est une belle introduction afin que le croyant puisse croire à l'invisible, à tout ce qui a été dit dans la révélation. À partir du moment où tu sais que tout ce qui a été dit dans le livre, il ne faut aucun doute sur la vérité, sur la véracité de tout ce qui a été dit dans le livre, tu te dois de croire à tout ce qui a été dit dans la révélation, même si ce qui relève de l'invisible. Hudan lil muttaqin, ce livre est une guidée pour les craignants. Qui sont ces craignants? Alladhina yu'minuna bil ghayb, ce sont ceux qui croient à l'invisible. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui accomplissent la prière et s'acquittent de la zakat, défense de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé comme richesse. Dans Pharaon, il avait cru à la dernière minute. Mais cette croyance ne lui a été d'aucune utilité. Parce qu'il a cru lorsqu'il était agonisant. Et parmi les leçons que nous tirons de cette verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit toujours par secourir ceux qui croient fermement à lui et qui lui font confiance. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Mais avant de poursuivre, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière suit l'histoire de Moussa alayhi salam. Vous savez, les Banu Israël, les enfants d'Israël vivaient en Égypte. Et à la base, ils étaient des personnes respectées et des personnes nobles, parce qu'ils étaient des descendants des prophètes. Vous savez comment Pharaon alayhi salam, il a commencé à les terroriser et à les mater lorsqu'il a vu dans un rêve que c'est un enfant d'Israël qui allait le renverser. Lorsque Pharaon a vu dans un rêve qu'un enfant d'Israël allait le renverser, il a regroupé ses notables, sa pêcheur avant. Et ils ont proposé de tuer tous les enfants garçons. Parce que c'était la seule façon d'échapper. De tuer tous les enfants garçons. Non? Et de prendre les femmes comme des esclaves et de les menacer. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël ont commencé à connaître la souffrance et la terreur. Mais est-ce que cela a empêché que ce qui a été prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala se réalise? Et ça fait partie des leçons que nous devons tirer de cette histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Pharaon, malgré sa royauté, Allah lui a fait savoir à travers les rêves ce qui allait se passer. Et malgré tout ce qu'il avait comme pouvoir, il n'a pas pu l'empêcher. À partir d'ici, on comprend que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide d'une chose, rien ne peut empêcher la réalisation de cette chose. Et c'est pour ça que l'homme se doit de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne s'inquiéter que s'il pense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé qu'un malheur l'atteigne, qu'une épreuve l'atteigne, quand c'est ce que planifient les hommes, quand c'est ce que pensent les hommes, cela ne devrait avoir aucune influence sur l'homme. Parce que même en sachant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, l'homme serait dans l'incapacité de lui changer. Donc, Pharaon, il a commencé à tuer tous les enfants garçons. Qui ne sait? Hakara Yukal, qui ne sait, hein? Oui. Mais il n'a pas tué Moussa. Parce que lorsque la mère de Moussa a enfanté Moussa, alayhi salam, Allah lui a demandé, et regardez les creux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de mettre l'enfant dans un berceau et de le jeter dans le Nil. Yani, subhanallah, c'est contre la raison, ça. Mais elle a cru, elle a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et elle a fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait demandé de faire. Et c'est comme ça que Moussa a été sauvé. Parce que la femme de Pharaon a vu Moussa, alayhi salam. Et elle est tombée sous le charme de Moussa. Il a demandé à ce que Pharaon l'adopte. Et c'est comme ça que Moussa a été adopté par son ennemi. Yani c'est qu'il hésitait. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Pourtant Pharaon passait tout son temps à tuer les enfants garçons à cause de lui, parce qu'il voulait les guider. Mais regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Regardez comment Allah l'a défié, afin qu'on comprenne que personne ne peut défier Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut faire face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut une chose, il déclare seulement soit et subitement, il fut. Et parmi les leçons que nous retenons de cette partie de l'histoire, c'est que lorsqu'on est convaincu qu'une chose a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala, même si elle ne s'accorde pas avec la raison, nous devons de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et de nous dire que si elle ne s'accorde pas avec la raison, ce n'est pas parce qu'elle ne s'accorde pas réellement avec la raison, mais c'est à cause de l'autre faiblesse que nous n'avons pas compris la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la chose prescrite. Ça, c'est quelque chose de très très important. Lorsqu'il est établi qu'une chose a été prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala à travers la révélation, que ce soit le Coran ou la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où il nous est établi que cette chose a été prescrite par Allah, si nous ne comprenons pas la sagesse dans cette prescription, cela ne devrait pas nous empêcher de mettre en pratique l'injonction d'Allah. Et nous nous devons en ce moment de dire que si nous n'avons pas compris, ce n'est pas parce qu'elle ne s'accorde pas réellement avec la raison, mais parce que notre raison est faible pour comprendre toutes les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est cette confiance qui devrait animer le croyant et qui devrait l'accompagner dans la soumission à son Seigneur. Voilà Moussa, elle a eu confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a exécuté l'ordre qui semblait dans son apparence ne pas s'accorder avec la raison. Pourtant, c'était ça la voie de la réussite. Et c'est comme ça que Moussa a été épargné. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis de lui rendre son fils. Elle n'a pas compris même ça. C'était quelque chose d'incompréhensible. Mais est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas rendu son fils? Lorsque Pharaon a adopté Moussa alayhi salam, Moussa a refusé de têter de n'importe qui que ce soit. Et la fille de Moussa alayhi salam a proposé. Oui, non. Elle a proposé à la femme de lui proposer quelqu'un qui pouvait s'occuper de l'enfant. Et c'était la mère de Moussa. Donc finalement, Moussa est revenu chez sa mère et elle était payée. Regardez la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient pauvres. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis à l'abri. Parce qu'à ce moment, quand tu devenais une servante de la femme de Pharaon, tu étais épargné. Regardez toutes ces sagesses. Qui se trouve dans quoi? Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les leçons que nous tirons ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que le bien pour ses serviteurs. Et que tous les actes légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala permettent à l'homme d'accéder à la réussite ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ Sehingga Allah huwa masraja. Kikongka kira Allah, Allah li akada ina isu favorab. Dans toutes choses, dans tout ce qu'il entreprend. À partir du moment où l'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il s'attendait à une issue favorable face à toutes les situations. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? Ta'amala bi ta'atillah. Comme Umm Moussa il a fait. Ala nourim min Allah. Tarju thawab Allah. C'est le fait d'œuvrer et de mettre en pratique les injonctions divines. C'est en suivant la lumière provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est la révélation. Tarju thawab Allah. En espérant les mérites promis par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta truka ma'siyatillah. C'est également le fait de délaisser. Anta truka ma'siyatillah. Le fait de délaisser l'insoumission, le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en fonction de la lumière, de la révélation. Parce qu'il y a certaines personnes qui délaissent le péché, l'insoumission. Mais seulement le délaissement de cette insoumission ne se fait pas suivant la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes ne sont pas les craignants. Jusqu'à ce que le délaissement soit, jusqu'à ce que le délaissement suive la révélation. Non. Mais vraiment, si on peut prendre un exemple. Par exemple, le délaissement du manque de respect envers les parents. Beaucoup de personnes ne nuisent pas à leurs parents, obéissent à leurs parents. Le fait de désobéir aux parents, c'est un acte interdit, blâmable en islam. Non? Mais beaucoup de personnes, beaucoup de ceux qui laissent cet acte blâmable ne le font pas en fonction de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir interdit la désobéissance envers les parents, nous a prescrit un certain comportement à adopter lorsque nous devons de délaisser cette désobéissance. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّنْ. Certaines personnes ne désobéissent pas à leurs parents, mais ne respectent pas cette prescription dans le délaissement de la désobéissance. Par exemple, ce que les parents ont dit, certains savants ont dit que ouf, ici c'est quoi? C'est le fait d'obéir aux parents tout en chuchotant, même si c'est dans le cœur. Si un parent, par exemple, t'envoie acheter quelque chose, si tu prends l'argent et te mets en route, tu auras obéi et tu auras délaissé la désobéissance à ton parent. Mais si en prenant cet argent, tu chuchotes sans qu'il ne soit au courant, tu n'as pas délaissé la désobéissance ici en fonction de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui voudrait que tu sois satisfait de tes parents même quand ils t'envoient et que tu te soumettes totalement jusqu'à ce qu'ils t'ordonnent de faire ce qui est interdit. C'est un exemple. Barakallahu fikum. Donc, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grandir Moussa sous la tutelle de son ennemi juré, qui était Pharaon alayhi salam. Après avoir grandi, Moussa voyait toutes ces injustices que subissaient les enfants d'Israël, mais n'avait pas la possibilité, n'avait pas la force de changer quelque chose. Et هذا يدل على قاعدة. C'est quoi cette qaïda? إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَطَاطِبُ قُدِّمَ الْأَدْنَى. Lorsque les mots se rencontrent, et lorsqu'on est face à une situation compliquée, dans laquelle, quelle que soit la position que nous adopterons, ce serait un mal. Alors ici, nous n'aurons plus d'autre choix que d'adopter le moindre mal. Ici, si Moussa s'attaque à Pharaon pour défendre les enfants d'Israël, il ne pourra pas les défendre. Et il sera anéanti, il sera tué. Il n'aurait pas en réalité aidé les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Est-il patient et réfléchit, médite sur les voies et moyens? Pendant qu'il réfléchit, est-ce qu'il aura aidé les enfants d'Israël? Non. C'est aussi un mal. Non. Mais qui est le moindre mal par rapport à l'autre? Parce que en fait, maintenant, en vie, un, il a la possibilité de prier. De prier pour les enfants d'Israël et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les sorte de cette situation. Non, ce qu'il fera, s'il s'attaque à Pharaon. Deux, il aura la possibilité de réfléchir sur les voies et moyens pour mettre fin à cette injustice. Vous avez compris? Et ça me rappelle ce que j'ai toujours dit aux musulmans par rapport à la situation des musulmans dans le monde entier, et particulièrement en Palestine. Une fois, quelqu'un était venu me voir, ici même, et la personne a commencé à m'embrouiller avec la situation en Palestine. Elle voulait que je sorte pour aller au jihad en Palestine, défendre les Palestiniens. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait déjà guidés sur les pas des savants. Je connaissais les paroles des savants sur ces genres de sujets. Je lui ai dit, Yahi, les Israéliens n'ont pas les Palestiniens n'ont pas besoin de quelqu'un qui va venir mourir avec eux. Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Or, tu sais bien que si je vais là-bas, c'est pour aller mourir avec eux, c'est pas les défendre, parce que je n'ai pas cette capacité, je n'ai pas cette force-là. Il faut avoir la force requise pour pouvoir défendre une personne. C'est une force qu'il faut avoir pour pouvoir défendre une cause, pour pouvoir défendre une personne. J'ai dit que les Palestiniens n'ont pas besoin des gens qui vont venir mourir avec eux. Mais ils ont besoin des gens qui peuvent les aider, qui peuvent les défendre. Or, en mettant ici, je peux aider les Palestiniens. Tu sais comment? Je vais étudier. Et si Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde la réussite dans mes études, je pourrais m'échanger moi-même échanger certains musulmans et leur faire comprendre que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne viendra pas à travers le tapage, mais il viendra lorsque nous retournerons sur notre religion et lorsque nous nous comprendrons sur les kitabs et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si il y a ça, j'aurais aidé les Palestiniens. Et en même temps, je pourrais prier pour ces personnes qui subissent cette injustice. C'est la vérité, contrairement à ceux qui font le tapage. Si tu les vois faire le tapage, comme un frère avait dit, toutes ces personnes-là qui sortent faire les marches, comment est-ce qu'on dit, les contestations, les mouvaharat, il va dans les mosquées après la prière de Fajr. Va dans les mosquées pour la prière de Fajr et tu comprendras que les musulmans sont très loin de leur religion. In tansurullah yansurukum. Allah est clair. Vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous secoue? Vous secoue? Alors, soyez au secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ici en vous comprenant sur la kitab et la sunna, en établissant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en commençant par votre propre personne. C'est comme ça que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra. Il ne viendra pas à travers les marches, le tapage. Et parmi les rares pays qui ont adopté la méthodologie islamique face à ce problème, c'est ce pays qui malheureusement est tapé par tous les mots, par les musulmans qui sont très loin de la réalité, tout simplement pourquoi? Parce que même dans les traitements de l'information, ils n'ont pas suivi la voie de la révélation. Ils s'effient à ce que racontent leurs ennemis, les ennemis de l'islam, sur le pays de la foi. Le pays de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pays qui n'est en réalité un ennemi commun pour tous les mécréants. Ce pays est un ennemi commun pour tous les mécréants. Que ce soit ceux qui s'affilient à l'islam, non, comme les Rawafid, ou alors ceux qui sont en dehors de l'islam et ne se revendiquent même pas être des musulmans. Ils ont tous ce pays comme ennemi commun. وَعَلَمُوا يَا إِخْوَا أَنَّهُمْ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ وَحَّدُوا اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُمْ يُعْلُونَ شَانَ التَّوْحِيدِ وَيُحَارِبُونَ الشِّرْكَ بِأَشْكَالِهِ Il ne reproche rien à ce pays, si ce n'est le fait qu'ils accordent de l'importance à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et combattent le polythéisme sur toutes ses formes. Naam. C'est ça le péché de l'Arabie Saoudite auprès de ces derniers. Nous ne disons pas que l'Arabie Saoudite est parfaite. Non. Personne n'est parfait. L'Arabie Saoudite commet des erreurs, des bavures. Mais en réalité, si on est sérieux, chaque musulman se doit d'aimer ce pays. Parce qu'en termes de comparaison, il n'y a pas un seul pays comme ce pays. Yani, celui qui déteste l'Arabie Saoudite, en réalité, se doit de détester tous les pays du monde. Parce que c'est pourquoi il déteste l'Arabie Saoudite. Non? Il y a pire que ça ailleurs, partout ailleurs. C'est pourquoi il déteste l'Arabie Saoudite. Il y a pire que ça partout ailleurs. Et c'est pourquoi il aime d'autres pays. Il y a plus grand que ça l'Arabie Saoudite, la préservation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la propagation de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-il de plus cher que ceci pour un musulman? Et c'est également ce pays qui a adopté la méthodologie islamique selon la révélation. Ils ne sont pas dans le tapage, mais ce sont ceux qui aident tous les Palestiniens, mieux que qui que ce soit. Il n'y a pas un pays qui a dépensé pour la Palestine et pour la cause palestinienne jusqu'à nos jours comme l'Arabie Saoudite. Il n'y a même pas un pays qui se rapproche de l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite fait partie des rares pays, si ce n'est le seul pays, qui n'a aucune relation avec Israël. Aucune relation diplomatique. Ils n'ont pas d'ambassade israélienne dans leur territoire et n'ont pas d'ambassade saoudienne dans le pays d'Israël parce qu'ils ne reconnaissent pas l'Israël comme un pays. Ils le reconnaissent, ils le voient comme un agresseur et ils le disent haut et fort. Mais seulement ils ne font pas le tapage des frères musulmans. Ils suivent la méthodologie de la charia. Contrairement à ce que racontent les mécréants. Et je vous ai dit que si les musulmans ont été victimes de cette manipulation, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi la voie tracée par la charia. En ce qui concerne le traitement de l'information, « Ya akhi, Allah est clair, ya ayu alladina amanu, ija'akum fasikum binaba'in, fatabayyanu, vous qui avez cru, si un pervers vous rappelle une information, rassurez-vous, n'acceptez pas l'information directement. Dès que vous recevez l'information, c'est déjà à la base. Le musulman ne recherche pas l'information chez le pervers. Quand il veut une information, il ne se dirige pas vers le pervers. Mais si un pervers lui rapporte une information, qu'est-ce qu'il fait? Non, il la vérifie. Mais quand lui, il se lève pour chercher à connaître, à avoir une information, il ne se dirige pas vers le pervers, non. Il se dirige vers le fiqh, le digne de confiance. Celui qui n'est pas connu par le mensonge. Et c'est de cette personne qu'il accepte les informations. Il y a beaucoup de frères qui ont des personnes proches qui vivent en Arabie Saoudite, qui ne cherchent jamais à contacter ces personnes lorsqu'ils veulent avoir une information relative à l'Arabie Saoudite. Mais ceci à ce qui est raconté dans CNN, France 24 et tout, en oubliant que ce sont des mécréants, et en oubliant que ces chaînes ont une idéologie précise, et tout ce qu'ils diffusent, c'est au service de cette idéologie. Tout ce que les chaînes diffusent, tout ce que chaque chaîne diffuse, c'est par rapport à leur ligne éditoriale, comme ils disent souvent. Et chaque média a une ligne éditoriale. Wa ala kulli hal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Fait. On était à quel niveau? Non? Non, pas. Donc, Moussa, face à cette situation, s'est montré en dehors. Mais il condamnait fermement cette injustice et réfléchissait sur les voies et moyens pouvant l'aider à sortir sa communauté, son peuple de cette injustice. Et regardez, subhanallah, on peut avoir des bonnes intentions et être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Un an comme Moussa était dans cette situation, une fois en se baladant, deux personnes étaient en train de se battre. Et quelqu'un a appelé à son secours. Et Moussa n'aimait pas l'injustice. Il a vu que celui qui appelait au secours était en train de subir une injustice. Il était victime de l'injustice. Alors il lui a porté secours. Mais seulement, il lui a porté secours au moment où Allah subhanahu wa ta'ala avait décréter la mort pour le bourreau. Donc lorsqu'il a voulu séparer, lorsqu'il a voulu secourir l'autre, il a donné un coup à l'autre qui est tombé et qui est mort. Ce qui lui a compliqué la situation. Il est devenu quelqu'un de recherché. Alors, il s'est senti dans l'obligation de fuir. Parmi les choses, parmi les leçons que nous tirons de cette étape, c'est qu'on peut être une bonne personne, avoir une bonne intention et être éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir du moment où tu connais ta relation avec ton Seigneur, c'est que tu es engagé dans le bien, il ne faudrait jamais que si Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve malgré cet engagement et cette bonne intention, que tu te décourages et penses que si Allah subhanahu wa ta'ala t'a éprouvé, c'est pour te détruire. Et parmi les leçons que nous tirons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve jamais son serviteur pour le détruit. À partir du moment où on est croyant, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve pas ses serviteurs, c'est précisément les croyants, pour les détruire. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs pour plusieurs sagesse, parmi lesquelles les sorties de l'insouciance et les préparer. Oui. Moussa alayhi salam, il est sorti. Et il est allé dans une autre contrée. Et il a vécu dans cette contrée. Et sur le chemin de retour, il a passé des années dans cette contrée. Et sur le chemin de retour, il a reçu la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé vers Pharaon. Et lui a accordé un ministre qui devait le soutenir dans cette mission, qui est son frère Haroun. Oui. Lorsque Moussa est arrivé, il a commencé à exhorter Pharaon. Et regardez, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa et Haroun, qu'est-ce qu'il leur a dit? Comment est-ce qu'il leur a demandé de prêcher à Pharaon? Faqula lahu qawlan layyinan. Parce que islamiquement, le dirigeant a un statut. On ne lui parle pas n'importe comment. Dites-lui la parole douce. Il se peut qu'il se rappelle et adopte le droit chemin. Donc islamiquement, le dirigeant, quel que soit son statut, croyant ou mécréant, il a une place. Et on ne le traite pas comme n'importe qui. Et cette règle ne concerne pas seulement les dirigeants, mais ça concerne toutes les personnes. L'islam traite chaque personne en fonction de son statut. l'islam traite chaque personne en fonction de son statut. Donc ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec le dirigeant que tu te dois de t'adresser à ce dirigeant n'importe comment. Non, si le dirigeant fait quelque chose de déplacé qui touche la religion, non, on doit enseigner la vérité aux gens et dissocier entre le dirigeant et la madakulta. Voilà, on doit dissocier entre le dirigeant et l'erreur. On doit parler de l'erreur, on doit dénoncer l'erreur sans toucher la personne du dirigeant. La personne du dirigeant, c'est autre chose. Et traiter le dossier du dirigeant, c'est autre chose. Et il ne faut pas mélanger les choses. Il faut parler de l'erreur, dénoncer l'erreur et appeler les gens vers la vérité. Mais il ne faut jamais s'attaquer n'importe comment aux dirigeants. Quand on doit s'adresser aux dirigeants, on doit être doux, on doit être respectueux et on ne doit pas soulever les gens contre lui. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit plutôt essayer de le ramener. Si on est proche de lui, si on peut lui parler, on le fait. Et si on ne peut pas, on passe par ceux qui sont proches de lui. Voilà la méthode de l'islam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa et Haroun vers Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit cette parole. Qui était Pharaon? Et qui de nos jours a atteint le statut de Pharaon? Yahi, c'est le seul. Ou alors il fait partie des rares personnes qui ont dit Ana Rabbukum al-A'la. Je suis votre Seigneur, l'élevé. Carrément, le gars carrément dit qu'il était le Seigneur. Il a dit, Ma alimtu lakum min ilahin, rayri, je vous n'ai pas enseigné une autre divinité en dehors de moi-même. Donc le gars se prenait pour une divinité et il était clair là-dessus. Et elle s'est passée pour le Seigneur. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, en envoyant ses envoyés, a tenu compte de son statut de chef. Donc, ça fait partie des graves erreurs, le fait de s'attaquer aux dirigeants, même quand ils ont commis des erreurs, publiquement, ouvertement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça n'apporte aucun bien. La première chose, c'est que tu n'es pas en train de t'adresser aux dirigeants. Tu es en train de t'adresser aux autres personnes. Et comme tu n'es pas en train de t'adresser aux dirigeants, en réalité, ce que tu es en train de faire, tu es en train de monter les gens contre lui. Ce qui ne devrait pas avoir lieu. Parce que quand les gens se soulèvent contre leurs dirigeants, ça apporte toujours plus de mal que de bien. Parce que le dirigeant est celui-là qui a le pouvoir. Et lorsqu'il sent son pouvoir menacé, il utilise son pouvoir pour préserver son pouvoir. Et ça crée beaucoup de dégâts. Alors comment éviter? Éduquer les gens, leur enseigner la vérité, sans toucher le dirigeant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas porter conseil aux dirigeants? Non. Au contraire, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, comme il a été rapporté dans un hadith authentique, Inna Allah yuhibbu lakum salatan. Inna Allah yarda lakum salatan. Wa yakrahu lakum salatan. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé vous trois choses. Yuhibbu lakum. Il agrée de vous que vous lui adorez, que vous l'adorez en lui voyant un culte sincère et exclusif, وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرقوا إلى غيره كيف كامبوني أو كابل الله كيف نفوديزي با وأن تناصحوا من والله الله أمركم إي الله سبحانه وتعالى أغريده كيف بورتي كونسي أسيلي أكي إلى كونفيه une responsabilité. Le dirigeant. Donc Allah a créé de nous le fait qu'on porte conseil aux dirigeants. Mais rappelez-vous ici que cela doit se faire à la nour min Allah. Tu veux porter conseil aux dirigeants, alors tu te dois de suivre dans cela la révélation, et tu dois le faire selon les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà une leçon parmi les leçons que nous pouvons tirer de cette phase de l'histoire. Fine. Lorsque les Moussa sont arrivés, ils ont commencé à appeler Pharaon et son peuple vers la soumission, vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle fut leur réaction? Non? Stakbaru. Ils s'étaient enflés d'orgueil. Stakbaru huwa wa junuduhu fil ard bighayri al-haq. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فرعون s'est enflé d'orgueil ainsi que son armée, et il pensait qu'il n'allait pas retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à se moquer de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun lorsqu'il lui récitait les versets de la révélation. Alors, Moussa a continué avec Haroun à l'appeler, ils ont insisté. Moussa, il a fait voir à Pharaon, c'est un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé avec lui. Lorsqu'il a vu les signes, est-ce qu'il a cru? Est-ce qu'il s'est plié? Non. Il a fait appel au magicien. Et il a organisé une grande rencontre. Non? Pour que les magiciens, ces magiciens défient Moussa alayhi salam. Taï. Fajumi al-Saharatu l'imiqati yomim ma'loum. On a donné rendez-vous, Pharaon a donné rendez-vous aux magiciens dans un lieu et à une période connue. Et les gens se sont rassemblés. Non, comme il a été rapporté dans le verset. Donc c'était vers Doha. Parce que c'est la période où les gens sont encore chauds et tout. Après, ils se sont rassemblés. Moussa est venu. Les magiciens sont venus avec leur magie. Après, ils ont commencé à faire des démonstrations. Ils ont jeté leur bâton. Ils avaient des bâtons qu'ils ont jetés. Et ils ont fait la magie, et leur magie a agi sur le regard des gens qui voyaient leur bâton comme des serpents. C'est un savant qui dit qu'en réalité, le magicien ne peut pas changer la nature d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que fait le magicien, en réalité, joue sur le regard de celui qui aperçoit la chose. Je ne sais pas si vous avez compris, aucune créature n'a la capacité d'agir sur une autre créature en changeant la nature de cette créature. Ça veut dire qu'en réalité, le magicien ne peut pas transformer ce téléphone en un œuf. Mais ce qu'il fait, c'est que sa magie agit plutôt dans nos regards. Non, la magie agit plutôt dans nos regards. Et c'est pour ça que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été atteint par la magie, il n'a qu'à non, il était victime de la magie. كان يخيل له أنه فعل شيئا ولم يفعله. La magie lui faisait penser qu'il avait fait une chose alors qu'il ne l'avait pas fait. C'est comme ça que la magie agit. Mais ce n'est pas qu'en réalité, ça change la nature d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Lorsque ils ont fait cette démonstration et que les bâtons dans le regard des hommes étaient devenus des serpents, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa de jeter son bâton qui s'est transformé en un grand serpent. Intervenez-vous. Écoutez la suite. Lorsque les magiciens ont vu cela, ils se sont tous prosternés. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont tous les magiciens. Ils maîtrisent ce que c'est que la magie. Ils ont compris que ce que Moussa venait de faire n'était pas la magie. Ils ont compris que ce que Moussa venait de faire n'était pas la magie. Et que c'était une chose qui ne pouvait pas dépendre d'un être humain. Voilà pourquoi, directement, ils se sont tous prosternés. Alors qu'avant cela, Pharaon leur a fait des promesses. Ils ont conclu des matières avec Pharaon. Il leur a promis des postes élevés et beaucoup de biens. Mais quand les gars ont vu le signe d'Allah, non? Ils se sont tous prosternés. Parce qu'ils étaient des magiciens et connaissaient ce que c'est que la magie. Parce qu'ils ont vu que le bâton de Moussa s'est réellement transformé en serpent. Ce qui n'est pas possible à magie, comme nous avons dit. Parce que le magicien ne transforme pas la nature d'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, ils ont vu que le serpent s'est réellement, le bâton s'est réellement transformé en serpent. Ils ont compris que personne n'a le pouvoir de transformer une créature d'Allah en une autre chose. Et ils ont compris que ce n'est que le créateur qui peut changer sa créature en une autre chose. Donc quand les gars ont vu ça, ils se sont prosternés directement. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ عَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. Nous avons cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moussa et Haroun. Oui. Est-ce que Pharaon a cru en ce moment? Il a cru, mais l'orgueil. Et c'est pour ça que parmi les choses que le croyant se doit de combattre fermement, l'orgueil. Et sachez, comme le disait Cheikh Mohammed Ben Hadi il y a deux jours, que l'orgueil.
C'est une passion cachée. Shahwatun khafiyya. C'est une passion cachée. Si l'on ne prend pas conscience de la nature de l'orgueil, l'orgueil peut le détruire sans qu'il ne se rende compte. Donc il faut être conscient que l'orgueil est une passion cachée. Il n'y a ni personne, même les plus orgueilleux, n'acceptent pas qu'ils sont orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de caché en toi-même, elle est cachée. Il faut aller la chercher quand tu es conscient qu'elle représente une arme de destruction massive. Il faut aller soi-même la chercher et la sortir de son cœur. Ce qui nécessite un examen de conscience et un engagement ferme. C'est pour ça que parmi les choses que nous devons faire, c'est nous prescrire cette thérapie, nous permettant d'éradiquer l'orgueil de notre cœur. Le Pharaon, il a cru. Au fond de sa propre personne. Mais l'orgueil l'a empêché de se soumettre à son Seigneur. Il a donc continué dans sa mécréance par orgueil. Pas parce qu'il n'a pas su, pas parce qu'il n'a pas cru. Les jahadou biha wa sifana biha en fosurum. C'est quoi la suite du verset? وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعتوا donc par orgueil il avait mécru alors qu'au fond de sa propre personne il avait compris que ça là ce n'est pas la magie, ce n'est plus provenir que d'un être suprême. Mais comme il s'était auto-proclamé suprême et Seigneur, par orgueil, il n'a pas voulu se rabaisser et se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de croire comme le magicien, il a commencé à brandir les menaces. Qala amantu lahu qabla an a'zana lakum. Vous avez cru à lui avant que je ne vous donne l'autorisation. Donc pour lui, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient devenus ses serviteurs, ses créatures. Il s'est comporté comme s'ils étaient ses créatures. C'est-à-dire même pour croire pour lui, il fallait que ce soit lui qui donne l'accord et l'autorisation. Et regardez aussi la réaction lorsque la foi pénètre le cœur. Que fut leur réponse lorsqu'il leur a menacé? قال لو قلت أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم. Je vais couper vos mains, vos pieds et je vais vous crucifier. Vous comprenez la menace? Que fut la réponse des magiciens? Ils ont dit: fais ce que tu veux, mon frère. Nous là, on a cru en Allah et nous espérons la récompense et le pardon et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la réalité de la foi. Quand on est pénétré par la foi, on s'en fout de ce que peuvent penser les humains. Et la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala devient l'unique objectif. Alors, en tant que croyant, si ton objectif, ton unique objectif, ce n'est pas la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu as encore des problèmes dans ta foi. Et que tu te dois de renouveler ta foi. Parce que ce que vise absolument le croyant, c'est réussir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette réussite, c'est échapper au châtiment du feu de l'enfer et être introduit au paradis. Donc, voilà ce que fut la réponse des magiciens. Donc, قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. فرعون dit, je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Il dit, en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. La croyance au jour du jugement dernier. وَمَا تَنْقِمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont parvenues. Voilà pourquoi les pires des créatures, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas cru. On peut ne pas croire et avoir une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi cette excuse? C'est si la révélation ne nous parvient pas. C'est si la révélation ne nous parvient pas. Mais à partir du moment où la révélation nous parvient, l'épreuve nous parvient, nous n'avons plus d'excuses. Et comprenez que la preuve, ici, ce n'est pas seulement que les envoyés viennent nous détailler tout. Regardez l'attitude de ces magiciens. Est-ce qu'ils ont eu besoin que Moussa leur explique tout ce qui a été révélé? Première rencontre, premier contact, ils ont vu les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont soumis. Ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes parmi les musulmans et ceux qui s'affilient à l'islam qui voient les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont encore des doutes dans leur cœur. Avec Moussiba. Ces personnes sont pires que certains mécréants. Il y en a certains parmi ceux qui n'ont pas cru parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Parce qu'ils n'ont pas vu les signes. Donc quand on voit les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit de croire et de se soumettre. Subhanallah. Aujourd'hui, nous racontons l'histoire de Moussa, alayhi salam, et de son peuple. Alors qu'il y en avait parmi ces gens-là qui ont vu ces signes et qui n'ont pas été influencés par ce qu'ils ont vu et qui ont continué dans la mécréance. Comme certains parmi les enfants d'Israël qui étaient avec eux, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait sauvés, et qui se sont soumis. Hein? Ils sont même allés jusqu'à adorer le veau. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala venait de leur exposer des signes clairs. C'est comme le tsunami qui avait eu lieu. C'était où? Au Japon. Très peu de personnes ont profité de ce qui s'est passé, ont médité sur ce signe et ont vu leur foi grandir. Très peu de personnes parmi les mécréants ont cru par le biais de ce signe, qui a été exposé. Mais je suis sûr qu'il y aura des générations qui viendront après nous, qui liront l'histoire de ce tsunami et qui croiront et qui profiteront. Alors ne soyons pas de ceux qui sont proches des signes d'Allah, qui ont vécu ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans pour autant profiter, sans pour autant croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Oui. Alors, ils ont dit, وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. الله أكبر. Ils ont dit, tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsque nous sommes parvenus. Ensuite, ils se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, oh notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Déverse sur nous l'endurance. Yani, subhanallah, regardez bien, méditez bien sur l'attitude de ces magiciens. Ils viennent juste de croire. Mais ils ont été pénétrés par la foi et ils ont compris qu'il vaudrait mieux endurer et mourir croyant que de vivre mécréant. Et ça fait partie des leçons que nous devons tirer de cette histoire. Yahi, que tu meurs croyant, cela c'est préférable. Cela se doit d'être préférable que de vivre mécréant, que de vivre dans la perversité. Voilà pourquoi, parmi les invocations recommandées, c'est le fait de prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne des titans. Et que s'il décide d'éprouver ses serviteurs, alors qu'il retire notre âme avant de les éprouver. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrivera dans cette épreuve. Si on ne va pas abandonner la religion dans cette épreuve, alors il vaudrait mieux mourir en pleine soumission que de se poser aux troubles et aux épreuves. Alors, quand Pharaon a décidé de terroriser les magiciens et les croyants, ainsi que Moussa et Haroun, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa de sortir avec les enfants d'Israël, ceux qui avaient cru. Et ils sont sortis. Et avant cela, Moussa a commencé à tout faire. Pharaon n'a pas baissé la garde. Il faisait tout également pour convaincre les gens. Et que lui-même qu'il était vraiment le Seigneur. Et que les gens ne devraient pas croire à Moïse, à Moussa alayhi salam. قال الله تعالى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون إلا أن تفعل son peuple. Oh peuple, أليس لي ملك مصر, n'est-ce pas moi qui détient la royauté de l'Égypte. وهذه الأنهار تجري من تحتي. N'est-ce pas là des ruisseaux qui coulent sous mon palais? Vous savez comment c'est un grand palais et tout. Afala Soubassirou, ne méditez-vous pas, ne voyez-vous pas, pour lui c'était des signes de seigneurie et de la royauté. Et il a été rapporté que Haroun al-Rashid, rahimahullah, qui était Khalifa min Khulafa'i al-Muslimin, qara hadi al-aya. Lorsqu'il a lu ce verset, et a vu comment Pharaon s'est vanté avec la royauté des Messieurs. Haroun al-Rashid, il était le Khalifa des musulmans dans le monde entier, de tous les pays musulmans. Alors que Pharaon ne détenait que l'Égypte. Quand il a lu ce verset, il a dit La'anahullah, qu'Allah le maudisse. Ma kana arqa'uhu. Yani, comme il était bête, Pharaon, dit le Khalifa Haroun al-Rashid. Idda al-Rububiyya bimulk Misr. Le gars s'est pris pour un seigneur à cause de son petit royaume, la royauté de Misr. Et ça, c'est une leçon que nous devons tirer également, surtout pour nos dirigeants. Il y a des personnes, parce qu'ils sont rois dans une petite contrée, ce sont pour des seigneurs. يا أخي من أنت ما أنت إلا عبد من عباد الله شنو يريد وسك أن تفيتي فاميلة تفيتي الله سبحانه وتعالى صفتك الله سبحانه وتعالى تأكردي لفوة كشدوة كشدوة ماتي كشدوة ماتي لتفيتي الله سبحانه وتعالى que tu dois être injuste, que tu dois faire ce que tu veux. Non, ce n'est pas comme ça. Donc il faut que les dirigeants aussi tirent des leçons sur l'histoire de Moussa. Le gars ne détenait qu'un seigneur, il s'est passé pour un seigneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fini par l'humilier. Et c'est ça la fin de tous les tyrans. C'est quoi la fin de tous les tyrans? L'humiliation ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et tous ceux qui se prennent pour des seigneurs et croient qu'ils que tout leur est permis parce qu'ils ont le pouvoir font partie des hommes les plus faibles d'esprit, comme Ali Haroun al-Rashid. Je dis, ma kan arfa'uhu, comme il était bête, ce Pharaon. Rien qu'avec Misr, ce petit pouvoir, le gars s'est passé pour un seigneur. Ensuite, il a dit, Wallahi, lawalliyannaha akhatta khadami. Wallahi, je devais faire de mon dernier serviteur le roi de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte. Yani, pour montrer combien de fois cela ne représentait rien. Il a pris celui qui avait l'habitude de lui verser le cas et faire l'addition et il l'a nommé comme gouverneur de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on retient encore de cette histoire? C'est qu'en réalité, le pouvoir ne se mérite pas. Yani, tu n'es pas, on n'est pas roi parce qu'on mérite. Parce que tu n'as rien de plus que certains serviteurs. Que tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, il se peut qu'il y ait parmi ceux qui sont sous ta tutelle, ceux qui sont meilleurs que toi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le pouvoir ne se mérite pas, mais c'est un dépôt. C'est un don qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Et qu'il n'y a rien en rapport avec la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accorder le pouvoir à la personne la plus pire, à la pire des personnes dans une contrée. Allah sait ce qu'il veut. Mais seulement, nos dirigeants sont aussi à l'image de nous, à l'image de nous-mêmes. Faye, Moussa est sorti avec son peuple. Pharaon les a suivis. Ils ont pris le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait demandé de prendre, qui menait tout droit vers la mer. Et lorsqu'ils sont arrivés au niveau de la mer, ils étaient suivis par Pharaon. À un niveau, ils avaient la mer devant eux, et juste derrière, ils voyaient l'armée de Pharaon arriver. Il y a une fois, imaginez-vous cette situation. Des gens qui ont cru à quelqu'un qui s'est dit être envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'ont suivi. Et finalement, ils se sont retrouvés dans cette situation. Ils étaient devant la mer et derrière eux, Pharaon et son armée arrivaient. Vous imaginez la panique? قال أصحاب موسى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Quand les deux groupes se sont vus, qu'ils ont commencé à se voir comme ça, quand l'armée de Moussa est sortie, de loin est-il les apercevait? L'armée de Pharaon est sortie de loin et qu'il les apercevait? Les enfants de Moussa et les adeptes de Moussa, ils ont dit Inna la Mudrakoun, c'est fini. Ils vont nous rattraper. Et regardez quelle fut la réaction de Moussa et sa réponse. قال إنما إيا ربي سيهدي. Certes, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. Tawakkul. Parmi les leçons que nous tirons de cette partie, c'est que ceux qui connaissent Allah le plus font confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la confiance qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala, le degré de cette confiance dépend du degré de foi et de la connaissance d'Allah. Plus on connaît Allah, plus on fait confiance à Allah. Le monde connaissait son Seigneur et il savait qu'en aucun cas Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait abandonner quelqu'un qui s'est soumis à ses injonctions. Donc, parmi les leçons que nous tirons, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si tu t'es retrouvé dans cette situation à cause de la soumission, alors ne panique pas. Abshir, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guidera, te secourira. Et si cela ne se produit pas, sache que le problème il vient de toi et qu'il y a eu un problème dans ta soumission. Soit dans ton intention, tu as été éprouvé et à un moment donné, tu l'as plus fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors soit tu l'as fait par ostentation. Et ici, tu ne bénéficies pas du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'en prends qu'à ta propre personne. Car lorsqu'on place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et se soumet comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala finit toujours par secourir son serviteur. Donc Moussa a dit, dans cette situation, Yahi, les gens pendant que les gens étaient en train de trembler et ont vu qu'il n'y avait plus d'issue. Parce que ils étaient devant un fait. Un fait. Non? La mer derrière et la mer de Pharaon. La mer devant et la mer de Pharaon derrière. Et eux au milieu. Khalaf, yani, qu'est-ce que tu peux encore t'attendre à telle situation? C'est soit la noyade, soit la mort. Non? Entre les mains de l'armée des Pharaon. Non. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Moussa a placé sa confiance en Allah et a brandi cette confiance, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de frapper la main avec son bâton qui s'est divisé en deux. Lorsqu'ils se sont mis à traverser, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, avant qu'ils ne commencent à traverser, que l'armée de Pharaon se rapproche bien d'eux. Vous savez pourquoi? Afin qu'ils périssent. Parce que s'ils n'étaient pas bien proches, ils allaient avoir peur d'entrer. Mais s'ils étaient arrivés quand l'armée de Moussa et les croyants étaient de l'autre côté, ils allaient avoir peur d'entrer. Et pouvaient s'imaginer qu'Allah devait les noyer. Donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala par sagesse a laissé qu'ils se rapprochent bien et pour qu'ils espèrent les rattraper. C'est pour ça que même quand ils traversaient, ils les ont suivis, ils étaient avec eux, mais il y avait un écart. Donc ils avaient l'espoir de les rattraper et ils ont oublié la réalité. C'était quoi la réalité? C'était qu'ils étaient en train de traverser entre eux. S'ils étaient en train de traverser en pleine mer. Les croyants savaient que c'était là le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Mais pour que Allah subhanahu wa ta'ala noie l'armée de Pharaon et Pharaon, il fallait que quelque chose les distrait. Parce que il faut comprendre que ce n'est pas naturel de voir une telle chose de et c'est lancé dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait là, les qu'ils se rapprochent? Et comme ils étaient acharnés, étaient préoccupés par le fait de rattraper Moussa et son peuple, alors ils ont oublié ce qui s'est passé autour d'eux. Ils n'avaient pas réalisé l'ampleur de la chose. Ils étaient focalisés sur leur objectif qui était rattraper Moussa. Alors, quand Moussa et son peuple ont rejoint l'autre bout, eux, ils étaient presque au milieu. Ils étaient presque au milieu. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient ni atteindre Moussa et son peuple, ni revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala les a noyés. Et lorsqu'ils ont commencé à se noyer, Pharaon a réalisé tout ce que Moussa lui disait. Et il a laissé apparaître ce qu'il croyait déjà, mais n'acceptait pas par orgueil. Il a dit, j'ai cru qu'il n'y a point de dignité digne d'adoration si ce n'est la dignité de Moussa. Et je fais partie du nombre des soumis. Mais cela ne lui a été d'aucune utilité. Parce qu'il était agonisant. Et parce que lorsqu'on voit la mort, le repentir n'est plus d'aucune utilité. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salam et a noyé Pharaon. Donc parmi les leçons que nous tirons, c'est quelle qu'en soit la durée de la nuit de l'injustice, le soleil de la justice finira toujours par se lever. Ça fait partie des leçons. Alors que les opprimés, ceux qui sont victimes d'injustice, ne se découragent pas et qu'ils ne pensent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a abandonné. Qu'ils sachent que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra tôt ou tard. Et que le plus important, ce n'est pas de trébucher lorsqu'on est victime d'une injustice. Le plus important, c'est de se maintenir dans la poursuite de ceux qui méritent le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous avez compris cette leçon? Quand on est victime d'injustice, une chose doit être, on doit être convaincu d'une chose, c'est que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra et que la vérité finira toujours par triompher. Mais la chose qui devrait nous inquiéter, c'est quoi? C'est le fait qu'on se maintienne dans la posture de ceux qui doivent bénéficier du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour bénéficier du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se maintenir dans la posture de ceux qui doivent bénéficier de ce secours, qui est une marque de miséricorde. Oui. Après cela, après avoir bénéficié de ce secours, Moussa alayhi salam, il avait gêné ce jour en guise de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les leçons que nous tirons, c'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ne comble pas un bienfait, un grand bien, nous préserve d'un grand mal et nous accorde le secours dans une situation compliquée, difficile, alors nous devons de nous montrer reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Parmi les leçons que nous devons tirer, c'est que on combat l'innovation parce qu'elle est une mauvaise chose. Et parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a rien de laissé de cette religion. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il a vu les juifs. Il a trouvé que les juifs jeûnaient. Il leur a demandé pourquoi est-ils jeûnaient. Ils ont dit qu'ils jeûnaient parce que Moussa avait jeûné ces jours en guise de reconnaissance et eux, ils l'ont jeûné. Le prophète a dit, nahnu awla bi Moussa minkum, et il l'a jeûné. Donc, quand les bases d'une religion sont établies en islam, on l'accepte. Donc, parmi les choses que nous comprenons, c'est que tout ce qui a été rejeté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que ces choses-là n'ont pas de base en islam. Ou alors parce que les bases de ces pratiques sont biaisées. Voyez qu'ici, lorsqu'il a été établi qu'il est permis de faire ce jeûne, le prophète l'a gêné et il a ordonné à sa communauté de le gêner. Et c'est une preuve, comme nous avons dit, que l'innovation n'a pas sa place en islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse être de ceux qui écoutent la bonne parole et la mettent en pratique.
et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de tous ces enseignements que nous pouvons tirer de ce qui s'était produit ce grand jour lors de cette histoire. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.